Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nys.
Aujourd'hui, les désirs d'un faune. Amis de la radio, bonjour. L'œuvre littéraire qui nous servira de socle aujourd'hui, c'est un assez long poème de Stéphane Mallarmé publié en 1876, L'après-midi d'un faune. Et c'est l'adaptation de ce poème en musique, réalisée par Claude Debussy, qui nourrira le volet musical de l'émission. Mais avant toute chose, et pour mieux saisir la signification de l'œuvre de Mallarmé, il ne semble pas superflu de nous attarder quelques instants sur un moment de la mythologie grecque, transposé plus tard dans la mythologie romaine. Transportons-nous alors, par l'imagination, dans ce monde grec de jadis, dans lequel foisonnent les dieux, au point que des philologues et des historiens ont pu dire que les hommes d'alors se sentaient partout accompagnés, quel que fût l'endroit où ils se trouvassent. Dans la nature, dans la campagne plus précisément, règne le dieu Pan, ou Pan, comme on a coutume de dire. À ce dieu s'associe la fécondité, et donc, du même coup, la sexualité. C'est pourquoi les pâtres et bergers révèrent Pan, qui les protège, eux et leurs troupeaux. Troupeaux qu'il faut veiller à maintenir en santé et aussi à accroître. On ne peut dès lors s'étonner que la représentation du dieu Pan participe autant de la morphologie animale que de la morphologie humaine. Une tête d'homme, sur laquelle se plantent deux cornes de bouc ou de chèvre, un buste d'homme encore, mais auquel s'articulent des jambes de cheval ou de bouc munies de sabots. Les êtres dont Pan aime à partager la compagnie sont à sa ressemblance. En Grèce, on les nomme satyres. À Rome, les faunes. Ajoutons pour finir les nymphées, c'est-à-dire les nymphes, divinités subalternes en fort grand nombre, qui personnifient la vitalité. Et Pan, et les satyres ou les faunes, et les nymphes, tout ce joyeux monde aime à se réunir pour chanter, danser, boire le vin des raisins de la vigne, goûter les fruits de la nature, la célébrer enfin, jusqu'à l'accouplement, étape première et nécessaire à la perpétuation de la vie. Et pourtant, il arriva un jour que la nymphe Syrinx voulut échapper aux ardeurs de Pan en fuyant dans un marécage pour s'y dissimuler, transformée en roseau. Mais en vain. Pan coupa le roseau, en fit un instrument de musique, qu'il appela Syrinx, et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de flûte de Pan.
Fuite tournoie
C'était en guise d'illustration une mélodie de Claude Debussy sur un poème de Paul Verlaine tiré de son recueil Fête galante et qui porte le titre Le Faune. Le baryton Stéphane Degout en assurait le chant et Alain Planès l'accompagnement de piano. On voit que Verlaine aura retenu du Faune son inclination aux fêtes des sens. Je lis le texte pour mémoire. Un vieux faune de terre cuite rit au centre des boulingrins, présageant sans doute une suite mauvaise à ces instants sereins qui m'ont conduit et t'ont conduite, mélancolique pèlerin, jusqu'à cette heure dont la fuite tournoie au son des tambourins. Verlaine n'en dit pas davantage, mais on devine ce que peut désigner, je cite, la suite mauvaise que semble annoncer le rire du faune. Quant au poème de Mallarmé, L'après-midi d'un faune, s'il s'étend, lui, sur 110 alexandrins, il ne livre pas aisément son sens pour autant. La poésie pratiquée par cet auteur n'a en effet cessé d'évoluer jusqu'à se rendre hermétique, travaillant le verbe poétique jusqu'à en faire un langage ésotérique accessible aux seuls initiés. Car Mallarmé comprend l'essence de la poésie comme mystérieuse. L'hermétisme lui apparaît dès lors comme une nécessité pour qui en cherche l'accès. Chez lui, pas de poésie descriptive, mais des symboles qui traduisent des concepts. Aussi, au lieu de donner dès maintenant lecture de l'après-midi d'un faune, je commencerai par exposer l'argument de ce texte que son auteur place dans le genre de l'églogue, à savoir un poème pastoral, généralement dialogué, néanmoins monologué en l'occurrence. Trois personnages, pourtant, dans cet églogue. Un faune et deux nymphes. L'une, timide et réservée, l'autre, ardente. Le faune a dormi. Il se demande, à son réveil, si les nymphes dont il garde le souvenir ne furent qu'un rêve, né du parfum des roses environnantes, une illusion de ses sens, plus précisément, l'impression dans son souvenir comme d'une source froide d'une part, d'une brise chaude d'autre part. Ou encore, puisqu'il n'y a dans le voisinage du faune en fait de source et de brise que celle de l'inspiration qui met un artiste à l'œuvre, une illusion née de son jeu à la flûte, sa syrinx. Mais avant d'aller plus avant dans l'exploration du poème, je propose d'écouter comment Claude Debussy en a restitué l'atmosphère en 1894, soit 18 ans après sa publication, 4 ans avant la mort de Mallarmé qui, à l'écoute de l'adaptation symphonique de son églogue, a approuvé l'œuvre. C'était le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, œuvre symphonique dont le chef Manuel Rosenthal dirigeait l'exécution par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris en 1957. La partition de flûte était assurée par Lucien Lavaillotte. Debussy a présenté sa composition comme « églogue pour orchestre », reprenant ainsi la désignation de Mallarmé. On aurait toutefois tort d'y reconnaître un développement rigoureusement fidèle au texte du poète. Comment d'ailleurs aurait-on pu y parvenir puisque le poème de Mallarmé ne comporte pas d'intrigue ? Il n'est que méditation, celle du faune interrogeant la nature de son désir. Aussi Debussy annonce-t-il dans le programme imprimé lors de la création de l'œuvre en 1894, je lis, « La musique de ce prélude est une très libre illustration du beau poème de Mallarmé. Elle ne désire guère résumer ce poème, mais veut suggérer les différentes atmosphères au milieu desquelles évoluent les désirs et les rêves de l'Égypan par cette brûlante après-midi. Fatigué de poursuivre nymphes craintives et naïades timides, il s'abandonne à un sommeil voluptueux qu'anime le rêve d'un désir enfantin réalisé, la possession complète de la nature entière. » Illustration libre, en effet. D'abord, parce que le faune de Mallarmé s'inquiète plutôt de savoir, comme on l'a vu, s'il a vécu des moments lascifs avec les deux nymphes ou s'il les a seulement rêvés. Interprétation libre de Debussy également, à propos de l'objet du désir du faune. Le poème ne signale pas une soif de possession de la nature, mais une ardente aspiration à faire acte de recréation de la réalité par la fiction, travail en tout point semblable à celui de l'artiste et non point d'un dieu. Le faune figure, par sa flûte, l'artiste, musicien et poète à la fois, comme Mallarmé précisément le voulait être, au point qu'il aimera se présenter en faune dans des œuvres futures. Après ce bref commentaire de l'après-midi d'un faune, orienté dans la direction qu'a voulu prendre Mallarmé, risquons-nous maintenant à écouter le texte même. Je m'efface et laisse le soin de la lecture au poète et romancier Pierre-Jean Jouve, décédé en 1976, dont la diction se prête à merveille au rythme des alexandrins de Mallarmé.
L'après-midi d'un faune églogue. Le faune. Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair, leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en mains rameaux subtils qui, demeurés les vrais bois même, prouvent, hélas, que bien seul je m'offrai pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froid comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre, tout soupir, dis-tu qu'elle contraste comme brise du jour chaude dans ta toison? Que non, par l'immobile hélas pâmoison, suffoquant de chaleur le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte. Au bosquet arrosé d'accord, et le seul vent, hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est à l'horizon pas remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Ô bord sicilien d'un calme marécage, qu'à l'envie des soleils ma vanité saccage. tacite sous les fleurs d'étincelles, comptez que je coupais ici les creux roseaux domptés par le talent, quand sur l'or glauque de lointaine verdure dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos. Et qu'au prélude lent où laissent les pipeaux ce vol de cygnes, non, de naïades se sauve ou plonge. Inerte, tout brûle dans l'heure fauve, sans marquer par quel art ensemble d'étala trop d'hymen souhaité de qui cherche le là. Alors m'éveillerai-je à la ferveur première, droite et seule sous un flot antique de lumière, lisse est l'un de vous tous pour l'ingénuité. Autre que ce doux rien par leurs lèvres ébruitées, le baiser qui tout bas des perfides assure, mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure mystérieuse due à quelque auguste dent. Mais baste, arcane tel, élu pour confident, le jonc vaste et jumeau dont sous l'azur on joue, qui, détournant à soi le trouble de la joue, rêve dans un solo long que nous amusions, la beauté d'alentour par des confusions, fausses entre elles-mêmes et notre chant crédule, et de faire aussi haut que l'amour se module, évanouir du songe ordinaire de dos, ou de flancs purs suivis avec mes regards clos, une sonore vaine et monotone ligne. Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne syrinx, de refleurir aux lacs où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps des déesses, et par d'idolâtres peintures, à leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté, pour bannir un regret par ma feinte écartée, rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide, et soufflant dans ses peaux lumineuses, avide d'ivresse, jusqu'au soir je regarde au travers. Ô nymphes, regonflons des souvenirs d'hiver. Mon œil trouant les joncs darder chaque encolure immortelle qui noie en long de sa brûlure avec un cri de rage au ciel de la forêt. Et le splendide bain de cheveux disparaît dans les clartés et les frissons aux pierreries. J'accours, quand à mes pieds s'entrejoignent, meurtris de la langueur goûtée à ce mal d'être deux, des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux. Je les ravis sans les désenlacer et vole à ce massif haï par l'ombrage frivole de roses tarissant tout parfum au soleil, où notre ébat au jour consumé soit pareil. Je t'adore, courroux des vierges aux délices, farouche du sacré fardeau nu qui se glisse, pour fuir ma lèvre en feu buvant, comme un éclair tressaille la frayeur secrète de la chair. Des pieds de l'inhumaine au cœur de la timide, que délaisse à la fois une innocence humide de larmes folles ou de moins tristes vapeurs. Mon crime, c'est d'avoir gai de vaincre ses peurs traîtresses, diviser la touffe échevelée de baisers que les dieux gardaient si bien mêlés. Car à peine j'allais cacher un rire ardent dans les replis heureux d'une seule, gardant par un doigt simple, afin que sa candeur de plume se teignît à l'émoi de sa sœur qui s'allume, la petite naïve et ne rougissant pas, que de mes bras défaits par de vagues trépas, cette proie à jamais ingrate se délivre, sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre. Tant pis, vers le bonheur d'autres m'entraîneront, par leurs tresses nouées aux cornes de mon front. Tu sais, ma passion, que pourpre déjà mûr, chaque grenade éclate et d'abeilles murmure, et notre sang, épris de qui le va saisir, coule pour tous les seins éternels du désir. À l'heure où ce bois d'or et de cendre se teinte, une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna, c'est parmi toi visité de Vénus, sur ta lave posant ses talons ingénus, qu'entonne un somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine. Ô sûr châtiment, non, mais l'âme. De paroles vacantes et ce corps alourdi, tard succombe au fier silence de midi. Sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème. Sur le sable altéré gisante, et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins.
Texte aux constructions difficiles, comme on voit, où la phrase se disloque parfois en écartant le verbe du sujet, le participe passé de l'auxiliaire, en multipliant les ellipses, ou au contraire les périphrases. Mais ainsi mis en valeur, les mots sont pour ainsi dire recréés. Ils se trouvent débarrassés de leur histoire, en puissance alors de recréer le monde à leur tour. Ils deviennent non plus des signes du monde, mais le monde, en tant que création de l'artiste démiurge. Ce n'est pas que Debussy n'ait pas compris le poème de Mallarmé sur ce point. Il a cependant opéré un déplacement de sa signification en affirmant le désir du faune de posséder la nature. Un déplacement de signification se repère aussi à propos du dédain final du faune pour les nymphes, car si Mallarmé abandonne peu à peu le ton d'un héros poétique, c'est au profit de la conversion du faune à la création artistique. Le texte dit bien que la flûte, la maligne syrinx des vers 52 et 53, a fait fuir les nymphes, alors que la flûte de Pan trouve, à l'inverse, son origine dans la fuite de la nymphe syrinx, on s'en souvient. Regonfler des souvenirs, comme dit le vers 62, ce ne sera pas simplement prolonger le récit, interrompu, de l'expérience sensuelle du faune, rêvée ou vécue, ce sera faire acte de création et de fiction à partir de réminiscences. Maintenant, réécoutons le prélude de Debussy, mais cette fois sous la forme d'une réduction pour orchestre de chambre.
Thank you.
Nous venons d'écouter une réduction du prélude « L'après-midi d'un faune » de Claude Debussy, réalisé en 1920 par le chef d'orchestre Benno Sax, après le décès du compositeur. Il y eut alors aussi un hommage collectif, rassemblant 10 compositeurs, dont Stravinsky, Ravel, Bartok, Satie, Defaya, Paul Dukas. Ce dernier composa un tombeau musical, à savoir une œuvre brève dans le but d'honorer la mémoire d'un disparu. Mallarmé lui-même avait écrit des tombeaux, notamment de Charles Baudelaire et d'Edgar Allan Poe. Écoutons donc, pour finir, un fragment du tombeau de Claude Debussy composé par Paul Dukas. C'était le pianiste Olivier Chosu dans ce bref extrait de l'hommage de Paul Dukas à Claude Debussy, composé en 1920, 2 ans après sa mort. La miniature porte le titre « La plainte au loin du faune ». Remplie de réminiscences debussistes, elle place le faune dans une atmosphère figée et lourde de soleil. Et le faune semble se plaindre en effet. Mais n'est-ce pas aussi Mallarmé, comme étranglé par l'angoisse de faillir à la tâche qu'il s'est donnée en 1876 de recréer le monde par l'art, comme ce fut plusieurs fois le cas de son vivant? Ami de la radio, au revoir.
C'était Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.